Radio Foot International, spécial UEFA Euro 2024 avec Annie Gasnier.
Et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur la radio mondiale et toujours les yeux rivés sur l'Euro. L'Euro avec ce match Autriche-Turquie qui sera la dernière confrontation des huitièmes de finale ce soir. Qui sait, avec du spectacle, avec des buts à la clé. On en attend ça, enfin.
Des quoi
pour cette rencontre, en tout cas éliminatoire, entre une équipe autrichienne très collective, mais aussi efficace, et une sélection turque très jeune, à l'instar de sa star Arda Güler, mais aussi qui marque des buts. Le vainqueur sera opposé en quart de finale au vainqueur de Roumanie-Pays-Bas qui commence à l'instant. France et Portugal se retrouveront au prochain tour en quart de finale. Hier soir, les Portugais ont arraché leur qualification face aux Slovènes, ultra défensifs. Il a fallu en venir au tir au but et le gardien Diogo Costa a fait des miracles face au pourtant excellent Jan Oblak qui a même fait pleurer Cristiano Ronaldo en stoppant son pénalty. On s'y arrêtera. Et puis, il y a aussi la Copa América. Alors ça, c'est plutôt pour les noctambules. Mais le pays hôte a été éliminé dès le premier tour. Les États-Unis sortis par l'Uruguay et le Mexique, sorti lui aussi, qui accueillera la prochaine Coupe du Monde, stoppée par l'Équateur. L'Équateur qui, du coup, se retrouvera en quart de finale face à l'Argentine. Aïe ! Aux Amériques, en tout cas, les Sud-Américains font la loi, semble-t-il. Peu de rescapés du Nord et du Centre. Nous en parlerons aussi grâce à nos invités. Bonjour Eric Rabessandratana.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous êtes un peu noctambule
ou...
Non, vous regardez les résumés comme
exactement,
la plupart.
Exactement.
Ah, c'est dur un match à 3h du matin quand même.
Ouais. Surtout quand on regarde l'Euro en plus.
Oui, voilà. Ça risque d'être long la soirée. Bonjour Philippe Doucet, monsieur
bonjour,
Philippe.
Bonjour Madame Annie. Moi, je regarde plus la Copa América que l'Euro.
Ah oui ?
Oui.
Donc vous dormez pendant l'Euro.
Tu rates
vous...
pas grand chose.
Non, j'ai remarqué que je ratais pas grand chose.
Oui, mais enfin bon, il y a un manque d'efficacité pour certains aussi du côté nord-américain. Oui, mais pas que.
Ah, bonjour Étienne. Amérique du Sud, oui.
Bonjour Étienne Moati.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Moi je regarde évidemment tous les matchs de la Copa América qui sont retransmis sur la chaîne
L'équipe.
Et sur l'équipe live. Donc évidemment, contractuellement, je suis obligé.
Ouais,
bon, c'est pas vrai.
Ouais. Et vous dormez quand
pendant les matchs de l'équipe de France.
David Finzel m'a aidé à préparer cette émission avec Pierre Guérin et Mathieu De Galret à la réalisation. Radio Foot, c'est parti. Un mélange de musique pour symboliser cette confrontation ce soir sur la pelouse de Leipzig, dernier huitième de finale de cet Euro, face à face donc l'Autriche dont les supporters viendront presque en voisin, hein, vu que Leipzig est bien à l'est de l'Allemagne, et les Turcs très souvent soutenus par la forte communauté qui vit sur le territoire allemand. La rigueur du collectif contre la passion prolifique, peut-être peut-on ainsi résumer ce match entre des Autrichiens qui ont fini premier du groupe de la France et des Pays-Bas, autres qualifiés de ce tour éliminatoire, et puis des Turcs qui ont, eux, terminé deuxième en inscrivant donc des points à la Géorgie et à la République tchèque. Un secteur offensif qui est assez nourri, et c'est un détail important pour les Turcs qui, en mars dernier, lors d'une rencontre amicale, avaient été sévèrement battus par les Autrichiens sur le score de 6-1. Le sélectionneur de ces Turcs, l'Italien Vincenzo Montella, a bien compris Quelle était la force des adversaires ce soir?
Nous avons joué contre l'Autriche il y a quelques mois et l'impression que j'avais eue est que c'est une équipe complète, peut-être la meilleure collectivement. Elle exerce un pressing très haut, très efficace et très long. Elle est également très bonne dans les transitions. C'est une formation très complète. Comme je l'ai déjà dit, je trouve qu'elle ressemble à une équipe de club parce qu'elle connaît toutes les situations qui se produisent dans le jeu.
Vincenzo Montella, il est arrivé il y a 9 mois. Il a donc vécu dans sa chair cette humiliante déroute. Mais évidemment, ce soir, Étienne Moati, on n'aura pas le même match.
Franchement, on imagine assez peu une telle déroute pour les Turcs, moi qui m'ont fait une bonne impression, mais qui est quand même une équipe qui est un peu sur courant alternatif. Autant ils peuvent faire de très bons matchs, collectivement très intéressants, beaucoup d'énergie avec cette jeunesse turque, autant parfois...
face au Portugal, par
exemple. Ils éteignent le son et la lumière et il ne se passe plus grand-chose. Maintenant, je pense quand même que ce sera un match relativement équilibré, même si on peut quand même donner un petit avantage à l'Autriche, qui est une équipe franchement très, très dure à jouer, très bien équilibrée, très complète, très costaude, qui laisse peu d'espace, qui presse énormément. Donc voilà, un peu de folie turque contre le sérieux autrichien, même si c'est un peu un cliché.
Eh bien justement, parlons-en du sérieux autrichien aussi, parce qu'on met beaucoup en valeur le collectif. On l'a vu contre l'équipe de France, on les a vus par contre beaucoup plus offensifs, et c'était contre les Pays-Bas. Et on a l'impression que le travail de Ralf Rangnick, le sélectionneur, a mis des principes en application. C'est en tout cas le milieu offensif de cette Autriche, Christoph Baumgartner, qui le souligne.
Depuis que Ralf Rangnick nous entraîne, nous avons développé une philosophie de jeu spécifique, des principes que nous nous efforçons de mettre en œuvre sur le terrain, quel que soit l'adversaire que nous affrontons, des points d'ancrage auxquels nous pouvons toujours nous référer. De mon point de vue, il est plus difficile d'appliquer ces principes en sélection qu'en club. Dans une équipe de club, on peut les travailler au quotidien.
Philippe Doucet, on connaît le football autrichien ces derniers temps à travers le club de Salzbourg, qui a un peu son bras armé, le club qu'il met en valeur sur la scène européenne parce qu'ils sont liés et notamment les joueurs commencent dans l'un et continuent dans l'autre, c'est Leipzig en Allemagne. Est-ce qu'on peut parler d'école Red Bull qui est le propriétaire de cette équipe de Salzbourg et qui du coup se transmet aussi à l'équipe nationale, un peu peut-être comme fut un temps, il y avait l'école barcelonaise qui avait influé sur l'école
La Rocha. Clairement, Annie, il y a un lien total qui s'appelle Ralf Rangnick, qui a été quand même l'architecte principal. Il y en a eu d'autres, mais ça a été vraiment quand même l'architecte principal de la constitution du RB Salzbourg, puis du RB Leipzig, avec une... Et toute une politique où les deux clubs ne sont pas si liés que ça d'ailleurs, puisque quand il y a un transfert entre les deux, ils ne rigolent pas, hein, ils ne font pas de cadeaux. C'est une philosophie assez marrante d'ailleurs, la manière dont la multipropriété est différente de tout ce qu'on voit ailleurs. Donc ce n'est pas inintéressant. Mais surtout, par contre, il y a une vraie philosophie de jeu, il y a une vraie préparation, il y a une vraie politique de recrutement, surtout de jeunes, beaucoup d'Africains d'ailleurs. Beaucoup de joueurs qu'on va chercher jeunes, qu'on développe avec des plans très, très élaborés, que ce soit en Autriche puis en Allemagne. Et Ralf Rangnick est vraiment l'architecte de ça, plus la manière de jouer. Mmh. Et la manière de jouer, là, le lien, il est évident. C'est exactement ce qu'on voit avec l'équipe d'Autriche. Il n'y a pas de grandes stars, évidemment, ou alors elles sont en préparation pour plus tard en ce qui concerne les clubs, en équipe nationale.
Sa grande star, en plus, n'est pas différent. Là, qui était à là-bas, hein, bien sûr, qui est un peu dans le staff, mais en tout cas pas sur le terrain.
Il fait son petit boulot sur le banc.
Ouais. Bien sûr, ça c'est
mais,
sûr.
Mais Rangnick, on voit tous ses préceptes dans l'équipe nationale d'Autriche. Ça presse haut, c'est très carré, il y a des principes de jeu sur la circulation de balles, des circuits qu'on reconnaît. Non, mais c'est complètement ça, avec une application rigoureuse qui marche bien.
Justement, alors est-ce qu'on peut s'attendre à un match un peu plus spectaculaire? On a vu que la Turquie avait quand même marqué pas mal de buts, même si elle avait été justement un peu
annihilée. Et encaissée aussi, d'ailleurs.
Oui,
c'est pour ça que ça m'inquiète.
Par le Portugal. Et puis, on a vu ce match qui était un des meilleurs de l'Euro, disait-on, en tout cas du premier tour, qui était entre les Pays-Bas et l'Autriche.
Ouais, alors la Turquie...
Terminé 4 à 3, hein, donc c'était...
Non, mais après, la Turquie, elle est un peu à l'image de son championnat. C'est-à-dire que, comme le disait Étienne, il y a des trous d'air de temps en temps, il y a du plaisir, du jeu vers l'avant, un état d'esprit qui est quand même assez joueur est positif, mais il y a des trous d'air aussi. Et face à une équipe autrichienne qui est pleine de rigueur, pleine de respect de cette culture football là, et de ce qu'ils présentent surtout pendant cet Euro, je ne sais pas s'il y a aussi peu de différence entre les deux que ça, parce que je pense que l'Autriche, elle est quand même très favorite pour moi.
Mmh. Elle est au-dessus pour vous ?
Ouais, vraiment. Mmh. Vraiment. Elle est au-dessus de beaucoup d'équipes dans cet Euro pour l'instant.
Hein. D'ailleurs, ils ont fini premier de leur groupe et c'est vrai qu'on était méfiants envers cette équipe, même si elle était donc sans Alaba. Il y a un des joueurs de cette équipe d'Autriche qui s'est illustré jusqu'en finale de la Ligue des Champions, Étienne Moati, et c'est bien sûr Marcel Sabitzer qui joue avec Dortmund.
Ah oui, c'est franchement un très bon joueur qui arrive en pleine forme sur cette compétition. Maintenant, c'est franchement pas les individualités qui ressortent de cette équipe autrichienne. C'est vraiment un bloc extrêmement compact. Je dirais pas que les joueurs, on peut les prendre un peu les uns pour les autres, mais un petit peu quand même. D'abord parce qu'il y a pas beaucoup de noms très très connus dans cette équipe.
Même dans le collectif de Dortmund, Sabitzer a finalement gagné un peu la lumière.
Il est
quand même
très important. Ouais.
Oui, non, mais peut-être aussi parce que cette équipe de Dortmund, elle a aussi cet esprit-là, donc extrêmement collectif, avec le sens du sacrifice pour les uns et pour les autres. Mais voilà, cette équipe autrichienne, moi, je trouve qu'en effet, elle est très compacte, très sérieuse, très difficile à manœuvrer. Après, il lui manque quand même un petit peu de fantaisie, un petit peu de force devant, de technicité dans les derniers mètres. Donc peut-être, je ne parle pas forcément pour ce soir, mais pour le reste de la compétition, peut-être il peut lui manquer ça quand même pour les matchs à élimination directe face aux grosses équipes.
Les grosses, ouais.
Philippe, sur la rencontre en soi et un peu la confrontation entre l'Autriche qui arrive avec beaucoup d'ambition, on l'a bien compris, et puis la Turquie qui, elle, est quand même toujours là, en tout cas participe.
Oui, enfin, pas toujours d'ailleurs, mais là,
régulièrement,
ça va mieux.
En tout cas.
Oui, ça va un peu mieux, ils sont un peu plus présents dans les compétitions. Moi, j'ai vu essentiellement le match contre le Portugal, donc je ne suis pas très optimiste pour cette équipe que j'ai vu renoncer littéralement.
Hein.
Oui, puis en plus, qui a renoncé complètement. C'est-à-dire qu'à la 60e, ils ont commencé à dire « bon, ben, c'est fini, on n'y arrivera pas, c'est pas la peine ».
Et c'est ce que raconte Montella.
Quand on voit des équipes faire ça…
Et c'est ce que raconte Montella de ce match amical,
Philippe. Je n'y crois
pas,
j'ai du mal à y croire pour l'avenir.
Et c'est ce que raconte Montella, malheureusement, de ce match amical. Oui. Le 6-1, il dit à la mi-temps, je ne me souviens plus bien de combien c'était, mais il dit pareil, au bout d'un moment, bon, l'équipe a lâché. Et c'est peut-être le danger.
C'est très turc, hein. Les clubs turcs fonctionnent exactement de la même manière.
Ça.
Au départ, il y a un enthousiasme fou, tout le public est derrière. Si au bout de 10 minutes ça se passe mal, le public devient contre l'équipe et l'équipe s'effondre.
Tu peux prendre ça en sens inverse, c'est-à-dire que quand ça se passe bien et quand match démarre bien, que la circulation de balle est bonne, ce qui leur arrive quand même assez
souvent. Parce qu'ils ont des joueurs techniques.
Et s'ils ont l'occasion de marquer, pour le coup, ça devient aussi une autre équipe avec une qualité collective et individuelle assez importante.
Alors il y a deux bons joueurs, en tout cas, dont on attend beaucoup dans cette équipe de Turquie, mais surtout qui sont jeunes. Il y en a un. Évidemment, il est déjà sous les projecteurs du Real Madrid et c'est Arda Güler qui a déjà marqué dans cette Europe. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Kenan Yildiz qui a le même âge. C'est aussi ça, la Turquie, c'est pouvoir peut-être faire confiance un peu à la folie des jeunes sur le terrain.
Ils ont quand même une formation qui est quand même pas mal. Ils ont sorti quelques joueurs intéressants. Mm-hmm. Après, ces derniers temps, on a eu aussi nous dans le championnat de France, pas mal de Turcs, surtout à Lille.
Oui.
Mais voilà, les Yilmaz, les Yazidjou qui sont des joueurs très 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 technique et très bon dans le... Non, mais c'est vrai, c'est un apport vraiment supplémentaire dans une équipe qui tourne bien. Donc,
Burak Yilmaz, le titre de Ligue, cette année-là, ils le doivent aussi à la présence de...
C'est plus le même, hein, non, c'est plus l'attaque, même, évidemment. L'attaque, hein. Il y a Yilmaz, mais c'est plus le même.
Non, je n'ai pas dit ça, d'ailleurs.
Elle a...
Souviens-lui symboliquement.
Par moment, elle sort des joueurs comme ça, par moment, qui techniquement sont... Alors, je ne me rappelle plus quel joueur c'était, qu'on comparait à Messi un peu là, un petit gaucher, mais je sais plus c'était quoi son nom, qui finalement a pas donné ce qu'il devait donner, mais voilà, ils ont des talents.
Il y en a plein qui étaient annoncés comme des Messi. Ouais, et...
Oui, voilà, celui-là il est, mais
et
c'était pas mal.
On parle toujours de l'autre qui a 37 ans. Voilà.
Ouais. Bon, en tout cas, ce qu'on peut espérer, ça sera le dernier qualifié et ça sera qualifié face à la Roumanie ou.
Ce sera pas une affaire de récupérer. Moi, je pense que c'est l'Autriche qui va passer, mais récupérer l'Autriche derrière, ça ne sera pas une affaire, je pense quand même.
Surtout, si c'est les Pays-Bas qui les retrouvent. Ouais. Ils viennent de perdre contre eux et deux matchs après, ils retomberaient contre eux en quart de finale.
Fou, hein. C'est fou.
Mais bon, avec ce tableau absurde des troisièmes, c'est le risque de cette compétition-là.
Oui, et le risque du hasard ou du calcul, mauvais calcul. Je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, effectivement, ce soir sera défini donc ce dernier quart de finale. Et pour l'instant, bon, on en est qu'à la 25e minute de jeu, mais ce sont les Pays-Bas qui, grâce à Gakpo, ont marqué
une action individuelle, grâce au gardien de Roumains aussi, parce qu'il a eu un trou entre les deux vins, hein. C'est pas terrible.
Voilà, et donc les Pays-Bas mènent sur le score de 1-0. On continue et on va revenir eh bien, sur la soirée un peu folle d'hier soir.
O do Bernardo, ele vai arrancar. O Bernardo arrancou, bateu. Estamos aos quartos.
Nasceu um dia quando o vento.
O Portugal vai quartos.
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
Bruno Fernandes.
Bruno Fernandes.
E Bernardo Silva faturar.
O Diogo Costa é o maior! Hoje é dia 1 de julho! Fez a mesma coisa com o Ricardo! É o maior!
Le Portugal à l'usure. Il y a dû avoir quelques notes de fado dans le cœur durant ce match hier.
Pression, ouais.
Parce qu'ils ont quand même eu du mal, mais ils sont passés, les Portugais. Alors, il a fallu attendre la séance des tirs au but pour savoir qui poursuivrait l'aventure de l'Euro face à une Slovénie solide, recroquevillé aussi, et les Lusitaniens, eh bien, ils n'ont pas réussi à marquer. Ça peut arriver dans un match. En tout cas, il a fallu tenir, et vous l'avez entendu, il y a eu des moments un peu où on a essayé de s'emballer, mais où c'était compliqué. Mais surtout, il y a eu deux acteurs au final dans ce match. Alors, il y en a un, c'est toujours lui, et on va en parler après, mais c'est évidemment CR7. Mais il y a eu ce gardien, Diogo Costa. Eric Ravessandratana, on a déjà parlé de séance de tir au but avec vous. On a déjà parlé de pénalty. Là, on a une séance de tir au but où finalement, les Slovènes loupent les trois premiers tirs. Comment on explique ça? Est-ce que on se demande souvent s'il y a un là comme ça qui est donné par le premier tireur, par celui qui commence et qui peut influer sur les autres?
Oui, peut-être inconsciemment, oui. C'est pas forcément. Après, ça dépend de la maîtrise un peu du joueur qui arrive pour tirer. Mais,
non, mais là, les trois tirent. Oui,
mais il
n'y
a pas que
loupent.
Ça parce que ils loupent. Alors, ils ne sont pas très bien tirés. Ils sont bien tirés, mais pas très bien tirés. Mais par contre, c'est lui qui arrête les pénaltys. C'est
aussi
vraiment lui qui fait les arrêts.
Aussi,
c'est-à-dire qu'il pousse bien quand même. Il a une force dans son impulsion pour aller chercher les trois. Alors, même s'il anticipe un peu sur la trajectoire en allant un peu vers l'avant, en plongeant un peu vers l'avant. Mais c'est vraiment. C'est fort ce qu'il a fait par rapport aux arrêts qu'il a réalisés. Alors, c'est vrai qu'il est un petit peu aidé par les tireurs parce que quand tu tires pas assez sur le côté, tu laisses quand même une chance certaine au gardien. Bon, faut partir du bon côté. Et là, en l'occurrence, il est parti quand même trois fois du bon côté avec l'impulsion, avec la force, avec tout ce qui. Franchement, c'est trois beaux arrêts qu'il a fait. Donc, chapeau à lui.
Quand on dit que le gardien rentre dans la tête de l'adversaire, Étienne, est-ce que c'était le cas hier soir?
Non, j'ai pas eu ce sentiment-là parce que c'était un gardien, on va dire, plutôt tranquille avant les séances. Il s'agitait pas comme on peut
Oblak
le faire de temps en temps.
Oblak a plus fait de choses
voilà,
que...
Comme certains gardiens ont pu le faire dans le passé, ils le font encore aujourd'hui, c'est-à-dire avec beaucoup de mouvements de bras, avec...
Vous pensez à quelqu'un?
Une capacité, oui, il y en avait un qui était célèbre
un
dans
Argentin,
les années...
Un Argentin, c'est ça?
Oui, et puis même avant, je pense à Groblard aussi, qui adorait donc s'agiter énormément
mais
et faire le
dernier,
pitre.
Mais le dernier qui nous a tellement marqué,
oui.
C'était évidemment Emiliano Martinez
oui, plus son nom au micro maintenant.
Il est là-bas, la Copa América.
Non, c'est un gardien assez tranquille qui a juste usé de sa concentration avant les tirs et qui a été vraiment remarquable parce que les pénaltys sont pas mal tirés. S'ils étaient très bien tirés, de toute manière, il y a but. Donc, il n'y a pas de débat. Mais franchement, ce sont de vrais arrêts. Ce n'est pas des joueurs qui ont eu le pied qui tremble. Et puis, ce qu'il faut dire quand même, c'est que juste avant la séance de tir au but, il fait un arrêt dans le match qui est un arrêt incroyable. Qui, sinon, élimine directement
les
Portugais avant la séance de tir au but. Donc, c'est franchement un héros là-bas.
Philippe, en plus, ce gardien, il y a Yann Oblak en face ou à côté, parce qu'en l'occurrence, pendant les séances de tir au but, ils sont à côté et qui, lui, n'en arrête pas alors qu'il est si fort.
Il en a arrêté un pendant le match,
et on va y venir. Non, mais en tout cas, pour ce qui est de la séance de tir au but, et on le connaît bien du côté de l'Atlético Madrid, c'est quand même un grand gardien. Il y en a un qui systématiquement rate et l'autre qui va réussir, puisque les Portugais vont tous les réussir. Et Diogo Costa, il est jeune. Il est le gardien du FC Porto. C'est déjà un club qui dispute des matchs sur la scène européenne et tout. Ouais. Mais 24 ans, c'est un peu étonnant parce que souvent, on attend aussi beaucoup d'expérience.
Moins maintenant. Avant, oui, les gardiens, on attendait. Quand on était 24 ans, on était remplaçant. C'était pas possible.
Ils ont le caractère aujourd'hui.
Donnarumma est un jeune gardien. Celui-ci, Diogo Costa également. Il y a des jeunes gardiens. Maignan a commencé à sortir il y a déjà 3-4 ans. Donc il devait avoir 23 ans, 22 ans, quelque chose comme ça. 27, oui. Bon, il a commencé à être très fort à Lille. Ça doit faire déjà 4 bonnes saisons. Donc déjà à 23 ans, il était très fort. Lloris était très jeune, très fort déjà. Déjà à Lyon, assez jeune.
Barthez, pareil.
Donc ça arrive. Oui. Mais c'est de plus en plus courant. Bah, on a bien compris maintenant que c'est la prime à la jeunesse. Et que c'est un double paradoxe.
Maintenant, ils sont grands, ils sont jeunes. Ils sont... Non, mais c'est vrai. Ils sont tous au-dessus d'un mètre 90, voire plus.
Ça, c'est vrai. Ouais. Et en plus, ils ont un peu aussi adapté
ce jeu. C'est quand même un des postes qui a le plus progressé. Plus évolué. Et progresser d'une certaine manière dans le football, parce que maintenant, il y a vraiment des préparateurs tellement spécifiques que depuis une quinzaine d'années, le poste de gardien a beaucoup évolué. Énormément
et peut-être
évolué.
Un peu plus de vidéos, et peut-être, je pense qu'ils sont aidés aussi, ils ont des moyens en plus.
Il a dit après le match, notre envoyé spécial, Marco Martins, qui l'entendait, il disait que c'était plus instinctif, que bien sûr qu'il avait préparé la séance de pénalty, bien sûr qu'il savait un petit peu comment jouer les...
Ils préparent tous, toutes les équipes préparent.
Ouais, ils préparent, mais...
Et les Slovènes sûrement plus que d'autres, parce que vu le match qu'ils ont fait, ils s'espéraient y arriver à cette série de tirs au but. C'était leur objectif. L'arrivée, ils prennent 3-0 au tir au but.
Donc,
on a beau se préparer,
Après le gardien, il peut aussi avoir des indications sur l'orientation du pied quand il se pose le pied d'appui ou des choses comme ça. Et donc, ça peut l'aider dans sa décision et de se dire allez, je vais à fond parce que je sens qu'il va. Il y a certainement un ressenti aussi de ce côté-là dans la lecture.
En tout cas, parlons maintenant de l'homme qui s'est illustré aussi, l'autre, l'homme des records, assoiffé de records, l'homme qui dispute son 6e euro, mais qui n'a pas encore marqué dans le jeu et qui, à la 103e minute, a tiré un pénalty.
Cristiano Ronaldo sur le point d'envoyer ce Portugal en quart de finale. C'est parti, le coup de sifflet de Monsieur Arsato. Cristiano Ronaldo et la parade de Yann Oblak. La parade magnifique. Il était bien placé ce penalty et Yann Oblak qui fait échec à Cristiano Ronaldo. C'est énorme. Énorme.
Là, ils sont fortes ces images, Philippe.
Ouais. Vous vous souvenez, on avait quitté Cristiano face au Maroc en Coupe du Monde au Qatar en pleurs après l'élimination. Nous sommes à la mi-temps de la prolongation. Il est en pleurs après ce penalty. Ouais, je crois que c'est l'image la plus forte de cet Euro. Elle est là. Hein. Ce sont ces larmes de Cristiano.
T'as pas baissé les armes.
C'est parti pour Cristiano, petit pas marqué, et c'est dedans. 1-0 pour le Portugal, voilà, il salue le public, il s'excuse aussi Cristiano, il remercie aussi le soutien des Portugais.
Ouais, quelle force mentale, parce que sincèrement, être Cristiano à ce moment-là, faut pas se louper.
Et oui, et il s'est loupé donc. On va l'écouter Cristiano, parce qu'après ce match, quand même, il était encore beaucoup dans l'émotion au micro de Marco Martins.
Ah, uma tristeza inicial e uma alegria no final. É momentos Moments inexplicables.
C'était d'abord une grande tristesse et puis une grande joie. Ce sont des moments indéfinissables, on passe du pire au meilleur. Et ce fut le cas aujourd'hui. J'avais l'occasion de marquer et de donner l'avantage à la sélection et j'ai pas réussi. Oblak a repoussé le ballon. Enfin, il faut que je revoie le pénalty. Je ne sais pas si j'ai mal tiré, mais Oblak a fait un arrêt. Et donc, c'est un sentiment partagé de tristesse et de joie en même temps. Le plus important est de profiter de notre qualification. L'équipe a fait un travail extraordinaire. On a lutté jusqu'à la fin. Et au final, je crois que le Portugal a eu plus d'occasions que la Slovénie. La Slovénie a bien défendu. Ils nous ont rendu la partie difficile. Mais félicitations à toute l'équipe, particulièrement à notre gardien, qui a fait 3 arrêts essentiels.
A Eslovénia teve o jogo quase todo a defender, quando é assim é muito difícil. E a equipa está toda de parabéns, principalmente o nosso guarda-redes, que fez 3 defesas muito boas.
Philippe Doucet, ce Cristiano Ronaldo hier, titularisé à 39 ans, en pointe. Là, le numéro 7, évidemment, CR7 toujours là. C'était un moment touchant, on va dire, peut-être de cet euro, peut-être pas le meilleur si on aime le ballon, ouais, et si on aime le spectacle. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était un moment tellement presque incroyable quand même.
Étonnant,
que lui rate le pénalty à ce moment-là.
Non, qu'il rate, ça peut arriver, même si lui, il n'en avait pas raté depuis, je ne sais pas combien d'années. Donc c'est très étonnant qu'il ait raté celui-là, parce qu'en prolongation, évidemment, c'était le but de la victoire et c'était du sur-mesure pour lui. Il le rate, bon, très bien, ou bel arrêt de Oblak au demeurant.
103e minute.
Et par contre,
donc,
ses pleurs à la mi-temps de la prolongation, moi, m'étonne un peu, parce que normalement, on est dans le jeu, que l'émotion vous dépasse à la fin du match, oui, mais dans, je sais pas, rabais, moi, c'est très étonnant.
Ah ouais, c'est surtout très
rarement vu ça. Ce ne sont pas des pleurs, c'est une vraie crise de larmes.
Des sanglots.
C'est impressionnant.
Ouais. Des sanglots, oui.
Non, mais c'est surtout que lui, il a eu tellement de l'habitude de jouer des matchs à pression comme ça. Tu te dis, pourquoi plus là qu'à d'autres moments. Donc, mais bon, il y a une image où on le voit regarder sa mère qui est en train de pleurer dans les tribunes. Et peut-être que c'est ça qui déclenche ça. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était
assez. Ces derniers temps, il pleure beaucoup quand même. Il a pleuré aussi en finale de la Coupe d'Arabie Saoudite. C'est un garçon qui est devenu avec le temps assez émotif. Oui. Non, mais ce qui est
peut-être que c'est la fin. Il sait que c'est la fin aussi et que ça commence à...
Si c'est pas Cristiano Ronaldo, très franchement, vous avez un joueur qui rate un pénalty, donc dans ce moment-là du match...
Dans les prolongations.
Qui a une crise de larmes aussi intense, aussi forte.
Tu sors direct.
Et franchement, vous vous attendez pas à ce que ce même joueur soit envoyé dans séance de tir au but essentielle.
C'est là où je voulais
en venir.
Après,
il redevient évidemment très vite Cristiano Ronaldo. Bien il sûr. Reprend ses esprits. Il y a aucun problème pour qu'il puisse marquer un pénalty dans la séance de tir au but.
Il y a eu aucune inquiétude de l'entraîneur.
Si c'est pas Ronaldo, son entraîneur l'envoie jamais les tirer.
Mais je suis entièrement d'accord. Et quand on voit qu'il prépare avec évidemment le sélectionneur et qu'on voit qu'il prépare le groupe de ceux qui vont tirer, on se dit bon, peut-être qu'il va tirer le troisième, le quatrième,
non,
le cinquième.
Au
contraire. Et il tire le premier.
Non, mais c'est bien joué de la part du sélectionneur. Le premier, vous avez moins de tension, vous avez moins de pression. Et même si
t'as un petit sursis, on va dire. Si jamais tu rates.
Du fait qu'il avait raté pendant le match, forcément, il en avait. Mais c'est quand même moins dur que tirer le cinquième. Au moment où c'est la gagne, où il faut maintenir l'équipe à égalité. Je pense que c'est bien joué de la part du sélectionneur.
Je pense que c'était tout simplement prévu comme ça dans le programme du Portugal. Je n'ai absolument pas de doute là-dessus parce que c'est évidemment peut-être
c'est
moins dur.
Comme ça, d'ailleurs,
c'est
maintenant.
Peut-être moins dur de tirer le premier que de tirer le cinquième, mais c'est quand même plus dur de tirer le premier. En général, on met toujours un très bon tireur en premier pour essayer d'entraîner donc les autres
de plus en plus.
Pour la dynamique.
Depuis que les sélectionneurs sont enfin aperçus, quand on mettait en 5 son meilleur tireur, parfois il tirait même pas.
Exactement.
Et on se disait, merde, c'est un peu idiot. Non,
ou alors il arrivait un peu des choses tristes, comme on se souvient Mbappé quand il rate à l'Euro 2021 et qu'on a l'impression que c'est lui qui est responsable de tout, alors que c'est l'aboutissement de quelque chose. À la Coupe du Monde, on avait vu ce changement. On avait vu que finalement les vedettes, entre guillemets, tiraient en premier, Messi notamment, ça avait changé. Mais alors qu'il ait cette envie en plus de dire, allez, je marque le premier, parce que ça de nouveau donner le là. D'une séance de tir au but, et c'est vrai que. Mais alors, sur l'ensemble du match, ces Portugais, Eric, comment les avez-vous trouvés? Parce que là, on va les retrouver donc en quart de finale.
Après, ça reste une bonne équipe. Ils ont quand même vendangé pas mal parce que. Évidemment que Oblak a été bon et que. Mais Cristiano, il a quand même, entre les coups de pied arrêtés et les jeux, il y a quand même des situations où ils auraient pu marquer bien avant. Il faut se méfier de cette équipe du Portugal parce que je pense qu'elle est quand même elle est quand même très dangereuse et elle a un effectif qui est même si, voilà, comme on le disait depuis le début, elle a quasiment deux équipes. C'est aussi sa force, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir
enfin, que la deuxième équipe elle perd contre la Géorgie.
Oui,
quand même,
c'est vrai, mais mais bon, ouais, mais attends, c'était, la... oui, mais c'était voilà, c'était
et la première. Moi, je l'ai trouvée assez moyenne hier. Franchement, je trouve que c'est une prestation, une performance vraiment décevante de l'équipe du Portugal. Quand vous voyez l'effectif là, pour le coup, sur l'équipe 1, même si moi j'aime bien aussi l'équipe 2 du Portugal, mais sur l'équipe 1, vous avez quand même un talent assez incroyable en termes d'individualité. Dire à tous les postes, c'est vraiment du très très haut niveau, donc dans les plus grands clubs européens. Et je trouve que ils ont ronronné. Je trouve que offensivement, il y a manqué de créativité, manqué de quelque chose, manqué de jeu collectif bien huilé. Et finalement, les Slovènes étaient à deux doigts de se qualifier même dans le jeu, même en la
séance
de
tir au but.
Et les Portugais ont eu des occasions, mais finalement pas tant que ça sur 120 minutes.
Surtout, peut-être Philippe, on peut se dire, il y a quand même des joueurs comme Bruno Fernandes et comme Bernardo Silva, dont on attend beaucoup, en plus de Cristiano et autres. Mais est-ce que, pour vous, c'est quoi ? C'est le choix tactique. Je me souviens qu'en 2016, on critiquait beaucoup les choix de Fernando Santos, voire à la dernière Coupe du Monde. Est-ce que c'est les choix tactiques de Roberto Martinez ?
Je crois que malheureusement, cet euro montre de manière très, très évidente que les sélections nationales ne sont plus le nirvana du football depuis bien longtemps.
On ne leur donne plus le temps de s'entraîner, surtout.
Et qu'en plus, alors déjà, l'arrêt Bosman a fait que globalement, toutes les équipes de clubs sont nettement supérieures que les sélections nationales. Ça, c'est la première chose. Mais en plus, on a tellement raréfié, ils arrivent en fin de saison complètement cuits, raréfié les périodes de préparation. C'est de plus en plus court, on joue de plus en plus de matchs et on s'entraîne de moins en moins ensemble.
C'est vrai, ça c'est vrai.
À l'arrivée, du coup, s'étonner que collectivement les équipes nationales ne soient pas terribles, ce qui est le cas quand même de 24 sur 24,
bah, t'es quasiment...
à part l'Espagne.
Non, mais
j'ai vu une équipe qui ressemble à du football. Ouais, c'est vrai. En dehors de l'Espagne, je ne vois pas une équipe qui ressemble à une équipe vraiment de football de club, je dirais. Peut-être l'Autriche justement,
l'Autriche.
Mais à un niveau inférieur, mais peut-être l'Autriche. Mais ça ne ressemble pas à des football de club. Et si l'Espagne a ça, c'est parce que ça fait des années qu'ils développent le même
culture,
style
hein.
de football. Et donc, ça permet à ces joueurs-là d'avoir été habitués à ça, même quand dans leur club, ils ne le pratiquent pas complètement. Ça aide, mais... c'est pas le travail en sélection qui fait que collectivement c'est abouti. Et le niveau de cet euro souffre énormément de ça, à force les équipes nationales produisent.
Mais peut-être
une fois ils font un bon match dans une circonstance, le Portugal comme contre la Turquie, quand en face ça résiste pas trop physiquement et autres, tout d'un coup ils arrivent à jouer de façon déliée. Dès qu'ils ont de l'adversité, ils y arrivent plus. D'un match à l'autre, vous faites un favori de l'Espagne. Après, le match après, vous dites « Ah ben non, l'Allemagne, c'est pas mal. Ah ben finalement, l'Autriche, c'est meilleur. »
C'est vrai, il n'y a pas de certitude.
Et inversement, mais une équipe que vous avez vue très belle, la fois d'après, vous ne la voyez plus.
Physiquement, tu sens qu'il y a quand même... C'est dur pour toutes
vous
les équipes.
Vous les sentez fatigués. Carlos Bianchi, l'autre jour,
entre la préparation qu'ils ont fait.
C'est un euro fatigué.
Donc, tu as l'impression qu'ils n'ont pas digéré la préparation. Et déjà, il y a toute la saison avant.
Et après, il y a une préparation.
Et en plus, c'est pas grand. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une fatigue et premier match, tu regardes le spectacle offert sur les trois premiers matchs de toutes les équipes, on est très très loin du niveau normal de toutes les équipes.
C'est un
quoi.
Peu le cercle vicieux en plus, c'est-à-dire que les grands joueurs dont on attend, qu'on attend les Bellingham, les Mbappé, tous les autres là, de Paris, en fait ce sont des joueurs qui sont dans les meilleurs clubs et donc qui jouent le plus. Et donc,
mais qui forcent pas
plus. D'un point de vue athlétique, franchement, c'est quasiment toutes les équipes où on voit vraiment qu'il y a des trous. On voit vraiment que les joueurs sont fatigués, sont pas dans le meilleur rendement donc physique qui pourrait donner. Et la seule équipe qui s'en sort vraiment, c'est l'Espagne, parce que l'Espagne, c'est celle qui mise le moins sur le physique, c'est-à-dire qu'il y a un vrai fond de jeu, qui a une vraie circulation de balle assez rapide et qui demande peut-être le moins physiquement à ses joueurs. Mais les équipes et les sélections comme l'Angleterre, comme la France, qui ont des joueurs avec un haut potentiel physique, finalement, c'est celles qui sont un peu le plus en difficulté. Je parle parmi les grandes équipes.
Rappelons que suite au Covid, on a eu Euro 21, on a eu Coupe du Monde en hiver 22, on a maintenant l'Euro et la Copa América parallèlement. Ouais. On va avoir derrière la Coupe du Monde des clubs en 25. Et les vacances, c'est quand ?
Et je t'annonce aussi, parce que tu l'as oublié, qu'il y aura davantage de dates pour la Ligue des Champions à partir de la saison prochaine.
Absolument.
C'est vrai.
Bon, en tout cas, On aura le temps
d'en parler. Et que la CAF intelligemment a fait des groupes de 6 pour la Coupe du Monde. C'est parfait, parce que comme ça, on a le temps de faire plein de matchs. C'est super.
En tout cas, les Bleus seront donc opposés à ces Portugais. Comme on se retrouve, on a retrouvé les Belges, maintenant on retrouve les Portugais. Et nous aurons aussi face à face deux super gardiens. D'un côté, ce Diogo Costa dont on a parlé. Et puis Mike Maignan, le gardien des Bleus, un des meilleurs de cet effectif depuis le début de l'Euro. Et il a pleinement confiance dans le groupe, après la rencontre très défensive des Bleus.
Ce qu'on a su faire, c'est on a su marquer. Eux, ils n'ont pas marqué, nous, on a resté solides. Voilà, on va se préparer pour vendredi, jouer contre le Portugal, où ça va être encore un gros match. De toute façon, là, il ne reste que des gros matchs. Et nous, on va arriver, on devrait être prêts. On a un groupe solide. On s'est montré notre solidité, notre fraternité dans les moments difficiles. Il faut continuer comme ça. Voilà, ce qu'on a fait ce soir, c'est beau, mais ce n'est pas fini. Donc la solidarité, il faudra la renouveler vendredi.
Derrière, c'est du solide dans cette équipe de France, Eric.
Ouais. Bah ouais, il y a Upamecano et Saliba, c'est assez solide. Donc ça facilite aussi peut-être les prestations de Maignan, même si son talent est grand, très très grand. Mais voilà, il y a un équilibre défensif qui est pas mal pour les. Alors, je peux pas dire la même chose offensivement, puisque même si on a des occasions, on est quand même très loin du compte. Mais voilà, ouais, il y a un travail collectif qui est bon. Et qui est bien réalisé collectivement, défensivement. Donc du coup, ça soulage tout le monde. Et puis derrière, Upamecano et Saliba, c'est pas mal quand même. Je n'étais pas sûr de les voir aussi performants. Et franchement, sur ce que ça présente, c'est pas mal.
Ouais. Ça s'est créé sur le dernier match et sur les matchs préparatoires.
Comme à chaque grande compétition, c'est jamais la charnière qui a été installée.
Non, mais surtout,
avant,
de la part de Deschamps, t'as l'impression que... Et en fait, hop.
Et hop, ça marche. Mais Étienne, est-ce que cette solidité défensive, parce qu'il n'y a pas que E3, il y a aussi
un certain Koundé. Quand vous jouez avec 4 milieux, ça
c'est ça.
Les milieux
français
qui travaillent. Ouais. Bon, ah, oui. Est-ce que ça peut faire peur aux adversaires?
De toute façon, la France, même si elle est nulle, elle fait toujours peur à ses adversaires. C'est un peu particulier. Quand on a vu les Pays-Bas jouer contre l'équipe de France, ils ont été incroyablement défensifs. Et cette équipe de Belgique, qui n'est pas une équipe très forte en ce moment, mais elle a été aussi incroyablement défensive, tout en mettant beaucoup d'attaquants sur le terrain. C'était quand même assez particulier. Il faudrait que le sélectionneur de la Belgique nous explique quand même un peu mieux ce qu'il avait comme ambition sur ce match-là. Mais bon, l'équipe de France, elle a une bonne défense, c'est vrai, parce que même on peut rajouter les deux latéraux. Oui. Koundé est très bon depuis le début de la compétition, alors qu'il y a quand même de sérieux doutes.
Homme du match,
Hernandez est très bon aussi. Mais bon, on va dire que c'est quand même à peu près tout. Parce que le niveau de cette équipe de France, franchement, la tristesse qu'elle dégage, le manque d'allant offensif, et le niveau de ses attaquants, et pour le coup de l'ensemble de ses attaquants depuis le début de la compétition, ça fait peur. Donc... Franchement, le Portugal peut inquiéter l'équipe de France parce qu'on se dit que cette armada-là offensive qu'il y a au Portugal, elle ne va pas être aussi inoffensive qu'elle l'a été hier.
Philippe, une question, c'est Kylian Mbappé, on le voit assez peu. Il a essayé, bien sûr, hier et tout ça. Mais
le mec a le masque.
Tout vient du masque. Il s'en est beaucoup plein en conférence de presse en disant
non,
c'est super.
Non. Même en n'étant pas à son meilleur...
Vous avez déjà joué avec un masque, Eric?
Non.
Non, il cassait les nez, mais il ne faisait pas casser.
Comment ça? Je n'ai jamais cassé de nez, moi.
Oh, on dit ça.
Il n'y a rien, je n'ai jamais rien cassé.
Tu n'as jamais vérifié, quoi.
Je n'ai jamais demandé après les matchs.
Ancien défenseur, notre Eric Rabessandra.
Je plaisantais, mais... Non, mais Kylian n'est pas si mauvais que ça, mais, mais surtout...
Mais d'habitude, ça penche toujours à gauche, ça penche à droite.
Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour dire que Kylian Mbappé est mauvais, quand même?
Devant le but, il est mauvais. Étonnamment mauvais
c'est
de
et
but.
Pour le reste,
non, mais c'est vraiment
incroyable. Et pour le reste, devant but, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui te plaît dans son jeu depuis le début de la compétition.
Il y a eu plusieurs matchs où il n'y a que lui qui a déclenché quoi que ce soit. La Pologne, il a déclenché au moins 4 occasions tout seul, que personne ne lui a offert. Il les a procurées tout seul. Il a fait des choses. Et surtout, il y a un élément que tu minores complètement. Dans ton analyse,
que je n'ai pas démarré encore mon analyse.
si, tu as dit que l'équipe de France, on demandait pourquoi l'adversaire avait peur, il a peur parce qu'il y a Mbappé, par exemple. Parce que ça fait peur. Parce qu'il va vite, parce qu'il entame des actions. Alors, je suis d'accord avec la finition, il est incroyablement maladroit depuis le début de l'Euro. Ça,
il est au niveau des autres, là.
Il n'y a pas simplement sa maladresse.
C'est ça, c'est inquiétant.
Ouais. Oui, il fait peur, peur. Parce que c'est Mbappé.
Résultat,
les autres
sont recroquevillés derrière.
Et parce que, évidemment, et le nom, et ce qu'il est susceptible de faire, évidemment, que ça peut inquiéter un adversaire. Mais pour Mbappé, il y a évidemment son rendement à lui, individuel, son implication, parce que moi, je l'ai vu sur le match d'hier, franchement, tout le monde faisait des efforts, et comme d'habitude, sauf lui. Mais ce qui est quand même assez étonnant, et là, pour le coup, c'est la responsabilité de Didier Deschamps, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il cherche à faire avec Mbappé ? Mbappé, on est en train de nous en faire un espèce... Depuis qu'il a joué avec Messi et Neymar, il veut jouer en numéro 10, il revient au milieu de terrain, il ne fait plus rien. Ouais, la force de Mbappé, donc c'est quand même de faire des accélérations, de jouer en mouvement, ce qu'il ne fait plus depuis assez longtemps. Donc je pense que c'est vraiment un joueur qui doit se remettre un peu en question.
Perdu,
et quand en plus, mais là je rejoins Philippe, c'est vrai que les autres joueurs offensifs de l'équipe de France, franchement, sont très inquiétants aussi, c'est quand même un problème.
Je m'étonne toujours que Didier Deschamps ait choisi, mais bon, il a sûrement des tas de bonnes raisons, et notamment, je pense qu'il a quelques inquiétudes sur ses milieux de terrain, sur quelques-uns de ses milieux de terrain, dans termes physiques et autres. Mais je m'étonne quand même qu'au dernier match, contre la Pologne, on ait explosé les Polonais tout le match sur les deux côtés, et qu'on ne remette pas des ailiers sur ce match-là. Mais bon.
Non, moi, je suis d'accord.
Plus on s'étonne collectivement, et moins Didier Deschamps nous suit.
Mais il a d'autres certitudes. Il a d'autres types de certitudes, Deschamps, et à l'arrivée, il gagne. Donc, je comprends aussi.
Cette maladresse, elle est inquiétante parce que tu te demandes si, quand il joue, il réfléchisse. Oui, ils réfléchissent vraiment.
Parce que tu réfléchissent trop, peut-être.
Non, je suis pas sûr, parce que quand tu tires autant de fois à côté du but, à un moment donné, quand t'es sur le terrain, tu dois avoir une présence d'esprit de te dire, il faut changer quelque chose. Encore plus quand t'es attaquant. Et là, il y a aucun des mecs qui est devant qui se dit, à un moment donné, putain, faut que je change quelque chose pour eux. Et t'as la réussite parce que Colomoini rentre, il est un peu plus frais que les autres et que il cadre un seul.
Il tire dans le joueur,
mais voilà. Mais n'empêche que tu te dis, c'est pas possible, quoi.
Bon, en tout cas, ils ont des supporters du côté de l'Allemagne. C'est bleu, oui.
Ouais. Mais non, mais c'est 12 000. Il y en a eu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Français autant suivre l'équipe. Alors, peut-être qu'ils partent à l'étranger, c'est possible, vu le contexte politique actuel.
Mais alors, comme au Brésil.
Ils sont déjà partis, en fait.
Comme au Brésil, on a gardé la tradition des casas bleus. Casa, ouais. Ça veut dire maison. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'au Brésil, ils les avaient créés dans chaque ville où jouaient les bleus pendant la Coupe du Monde.
Sympa.
Eh bien là, il y en a. Des casas bleus en Allemagne. Et écoutez, hier soir, parce que les supporters étaient là réunis avant le match, hein, ils faisaient encore la fête, notamment les irrésistibles Français, et voilà ce que quelqu'un est venu les saluer. Paul Pogba, donc, le champion du monde 2018, qui n'est pas sur les terrains, on le sait en ce moment, parce que puni de dopage en Italie. Mais il leur a dit quelques mots à ses supporters.
J'espère que vous allez tous bien. Ouais, on passe, est-ce que vous allez tous bien? Ouais, c'était vraiment, vraiment plaisir de tous vous voir ici. Vous me manquez vraiment. Ouais,
un petit clin d'œil à Paul Pogba, Étienne Moati.
Oui, on peut trouver ça touchant que Pogba soit accueilli donc par la Fédération française, par l'équipe de France et qu'il s'exprime comme ça dans la fan zone. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que quand vous êtes suspendu, pas uniquement de match. Vous êtes suspendu également d'entraînement. Vous êtes aussi
d'enceinte
suspendu
sportive aussi.
Pas d'enceinte sportive, mais d'exhibition, de représentation. Ah. Alors après, c'est toute une question d'interprétation. Mm-hmm. Mais j'ai travaillé sur le sujet un petit peu aujourd'hui.
Il peut être suspendu en plus de la suspension.
Mais bien sûr, ça arrive. Alors évidemment, on lui souhaite pas, et je pense pas que ça aille jusque là. Mais par exemple, des joueurs ou des athlètes qui sont suspendus et qui reviennent à l'entraînement, sont de nouveau suspendus pour une périodes supplémentaires. Donc c'est la suspension, on va dire, on vous bannit un petit peu du champ sportif, un peu au sens large. Donc évidemment, on ne souhaite pas ça à Paul Pogba, et moi j'étais content de le voir dans les tribunes.
Bon, ça doit lui faire du bien quand même, je pense.
Espérons que l'UEFA, oui, parce que apparemment les nouvelles données montraient que c'est un personnage qui était pas mal affecté par la situation. En tout cas,
on n'est pas très sûr qu'il reprenne sa carrière. Ouais, exactement. Parce que la durée de la suspension est tellement énorme.
Pour l'instant, c'est 4 ans.
Pour l'instant, à cet âge-là,
même s'il a fait appel devant le TAS, mais c'est vrai que pour le moment, la suspension est de 4 ans.
En tout cas, rendez-vous samedi à 21h pour ce match Portugal-France. Pour l'instant, il nous reste quelques minutes pour un crochet par l'Amérique du Sud.
Le pénalty désigné par Monsieur Escobar, 98e minute. Le pénalty est finalement annulé. Final, le Mexique est éliminé. On y croit désormais en tribune et on voit au classement les États-Unis qui repassent devant le Panama. Berhalter qui le dit à ses joueurs, un partout. Désormais, la priorité, c'est de ne pas prendre de but. Et surtout pas sur ce coup franc. Et surtout pas sur ce coup franc. Et pourtant, c'est ce qui va arriver. L'ouverture du score pour la sélection uruguayenne. Et c'est terminé. À 2 ans de leur Coupe du Monde à domicile, les États-Unis prennent la porte dès le premier tour de leur Copa América.
Et oui, pratiquement toute la phase éliminatoire est définie du côté de cette Copa América aux États-Unis, d'où cette musique country entraînante. Au cours de la nuit, donc, deux équipes, vous avez entendu, deux se sont qualifiées, le surprenant Panama et la séduisante Uruguay. Mais surtout, ces deux équipes qui vont bientôt organiser la Coupe du Monde, que sont... Alors, il y en a trois, le Canada est qualifié, le Panama aussi. Pour l'instant, c'est eux qui portent l'étendard de la CONCACAF, c'est-à-dire de l'Amérique centrale et du Nord. Mais en tout cas, les autres ont été éliminés, notamment les États-Unis et le Mexique. Est-ce que finalement l'Amérique du Sud, elle a tout le temps plein d'invités, on se souvient du Qatar, d'autres équipes et tout, mais que c'est quand même eux qui font la loi.
Elle
n'a
jamais les autres gagner.
Il n'y en a pas d'autres aucun au palmarès
invité,
en tout
aucun
cas.
Invité n'a gagné. Le Mexique a fait 2 fois des finales, mais c'est tout.
Oui.
Mais non, les États-Unis ont été décevants. Ils ont aussi pêché parce que Timothy Weah a fait un geste complètement invraisemblable contre le Panama. Ils perdent ce match contre le Panama et, parce qu'ils jouent à 10 tout le match.
Du coup, il se retrouve
dans cette situation terrible lors de la troisième journée. Là, la Bolivie étant l'équipe la plus faible de la compétition, le Panama les a battus inexorablement. Et donc, les Américains étaient condamnés à battre l'Uruguay quasiment, ce qui était quand même mission quasi impossible. C'est la meilleure équipe d'Amérique du Sud à l'heure actuelle, l'Uruguay. Donc, c'était...
Plus que les Argentins.
Ouais, enfin, pas en titre, on va pas dénigrer les Argentins. Mais sur cette compétition, je pense que l'Uruguay.
Parce qu'il y a
chances.
Le classement FIFA, il y a le classement Doucet. Donc lui, il fait son propre classement. Mais moi, je crois davantage au classement Doucet.
À mon avis, il est plus fiable.
Il regarde peut-être plus.
Il est moins compliqué, en tout cas. Je peux l'expliquer.
C'est moins compliqué.
Alors que le FIFA,
il peut changer à tout moment.
Etienne, je m'y essaierai pas.
Etienne, les Sud-Américains, les Argentins sont déjà qualifiés. On attend les Brésiliens. On va voir. Il y a la Colombie, il y a l'Uruguay. C'est entre eux que va se jouer ce titre.
Ah bah, il semblerait. L'Uruguay d'abord, je dirais, non
c'est vrai,
L'Uruguay d'abord.
Attention,
peut-être un petit peu les Argentins, une équipe un peu moyenne, mais enfin qui a quelques individualités.
Sur une bonne dynamique.
Sérieusement, on attend évidemment, comme d'habitude, toujours un petit peu les mêmes qui sont au bout, parce que finalement, ils sont au-dessus. Et les Américains, ça fait un moment qu'ils ne prouvent plus grand-chose. On a pensé que c'était le développement du foot américain au niveau de la sélection et ça stagne depuis un certain temps. Donc, évidemment, une équipe sud-américaine et très logiquement, celle qu'on attend d'habitude.
En tout cas, celle du Mexique aussi se prépare en vue de la Coupe du Monde qu'elle va organiser. Et la Fédération mexicaine a annoncé hier soir qu'elle confortait Lozano, Lozano,
ouais,
l'entraîneur. Il est mexicain, Lozano,
Lozano,
un ancien joueur justement de cette sélection. Ils ont raison peut-être aussi de travailler sur le long terme, Philippe.
Oui, mais ils sont sont un peu dans un trou là. Ils ont à la fois le
championnat. C'est étrange, hein.
Ouais, parce qu'ils gagnent encore les coupes de la CONCACAF. Là, c'est Pachuca qui est le club mexicain qui l'a gagné, mais on sent qu'il y a une difficulté. Ils sont à l'heure actuelle, c'est une ligue fermée au Mexique. Il n'y a plus de descente. Il y a 18 clubs, il y en a 10 qui sont en play-off, donc c'est pas très compétitif.
Ouais, changer maintenant, est-ce que ce serait
judicieux ? Les bons joueurs à l'étranger, il n'y en a pas tant que ça. Ils sont un peu dans un trou et ça va être compliqué d'avoir une belle équipe en 2026. On sent que ça travaille mal au Mexique.
En tout cas, pour ceux qui sont des noctambules, donc ce soir, Brésil, Colombie et Costa Rica, Paraguay.
Là, c'est la belle soirée.
Pas de soucis, c'est à quelle heure ?
3h.
Franchement, on n'est jamais couché.
Une heure GMT, mets-toi à l'heure GMT.
On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième édition. We'll be right back.